Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Juliette pour Info Club chez WAM. Alors aujourd'hui on va parler littérature et bricolage avec Christelle, professeure documentaliste au collège Compar-Morel de Breteuil, et Fabrice, professeur de lettres et d'histoire-géographie au lycée Robert-Val à Breuil-le-Vert. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Bonjour Juliette.
Alors ensemble, on va évoquer deux thèmes, la littérature et le bricolage. Et oui, le confinement nous laisse du temps pour lire, se plonger dans la culture, mais aussi pour jardiner et bricoler. En plus, entre ciel bleu et soleil, le temps s'y prête parfaitement. Alors on va vous présenter quatre livres autour de cette thématique. Vous plaisantez Monsieur Turner, de Jean-Paul Dubois, Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien, de Jérôme K. Jérôme, L'île déserte, de Claude Ponty, et Le gang de la clé à molette, de Édouard Abeille. Et on va évidemment vous lire quelques extraits pour vous donner envie de dévorer entièrement ces histoires. Alors on va commencer tout de suite par « Vous plaisantez Monsieur Turner » de Jean-Paul Dubois, choisi par Christelle.
Oui, il me semblait important de parler de ce roman qui a eu beaucoup de succès à sa sortie en 2006 aux éditions de l'Olivier. Il met en scène un personnage qui hérite d'une maison d'un grand-oncle dans la région de Toulouse. Il abandonne sa maison, il revend la maison qu'il occupe, qui est très confortable, qui est tout aménagée, et il entreprend de faire retaper cette maison dont il a hérité. Voilà, il va aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise, et un certain nombre d'artisans, de corps de métier vont se succéder dans sa maison, tous plus loufoques les uns que les autres.
Et donc on va pouvoir vous lire un petit extrait de « Vous plaisantez, Monsieur Turner » sur Radio Campus Amiens de Jean-Paul Dubois.
Pierre Sandre et Pedro Cantor formaient un couple comme l'on n'en croise qu'une fois dans sa vie. Sandre était une sorte d'os sans fin, un échalas décharné, avec une démarche d'insecte maladroit. À voir Pedro Cantor, on se demandait en revanche comment un homme aussi petit pouvait porter autant de chair. Il avait des jambes courtes, des bras minuscules, des doigts ratatinés, pas de cou, et son ventre démesuré le précédait en tout lieu. C'était donc ce singulier équipage qui allait œuvrer sur mon fragile toit de tuiles. J'avais du mal à concevoir leur balai. Ce premier jour d'installation, je fus surpris de ne pas voir Pierre et Pedro monter le moindre échafaudage. Vers midi, Pierre vint vers moi.
Vous avez une échelle ? Parce que nous, on n'en a pas.
Comment vous faites d'habitude ?
On demande une échelle au type chez qui on travaille.
Et s'il n'en a pas ?
Vous rigolez ou quoi ? Tout le monde a une échelle.
Devant tant de désinvolture, j'aurais dû comprendre que je faisais fausse route, que je m'embarquais sur un radeau branlant avec des pirates dégénérés. Au lieu de quoi, j'attribuais ces fantaisies à un sans-gêne souvent caractéristique des grands professionnels. Ils avaient hissé quelques outils sur le toit ainsi qu'un énorme transistor qui, tel un muezzin alcalin, arrosait le quartier de sa puissance sonore. De temps en temps, d'une voix de marchand de cravate, l'animateur demandait à un auditeur qu'il avait en ligne.
« Et moi, je suis qui ?»
C'est alors que là-haut, sans se concerter ni dévier de leur tâche, d'une même et tonitruante voix, mes deux oiseaux entonnaient
« Le roi de la radio !»
On vous lisait un extrait de « Vous plaisantez, Monsieur Turner » de Jean-Paul Dubois sur Radio Campus Amiens. Je suis toujours avec Christelle et Fabrice, qui sont tous les deux professeurs, et nous parlons toujours de littérature et de bricolage pendant ce confinement. Alors ce premier extrait était plutôt humoristique, on va dire, alors que le deuxième extrait qu'on va vous passer dans quelques instants est assez différent, peut-être plus mélancolique.
Oui, en fait, il montre que Jean-Paul Dubois ne fait pas que se moquer du propriétaire et de son narrateur. Hein. Il a aussi toute une réflexion autour du logis, de la maison et de son rapport à celle-ci. Et il construit presque un couple entre le propriétaire et sa propre maison.
Donc on va vous passer tout de suite cet extrait de Jean-Paul Dubois sur Radio Campus Amiens.
On ne possède jamais une maison. On l'occupe. Au mieux, on l'habite. En de très rares occasions, on parvient à se faire adopter par elle. Cela demande beaucoup de temps, d'attention et de patience. Une forme d'amour muet. Il faut apprendre, comprendre comment marchent les choses, connaître les forces de l'édifice, ses points faibles, réparer ce qui doit l'être sans trop bouleverser l'écosystème que le temps a mis en place. Et jour après jour, année après année, la confiance, lentement, s'établit. Une sorte de couple indicible et invisible se forme. Alors, Confusément, vous savez, vous sentez que cette maison, que jamais vous ne posséderez, vous protège loyalement pour le temps de votre courte vie.
On vous lisait donc un deuxième extrait de « Vous plaisantez, Monsieur Tanner » de Jean-Paul Dubois. Et pour rester dans cet esprit plein d'humour à propos du bricolage, Fabrice vous propose « Trois hommes dans un bateau, sans oublier le chien », entre parenthèses, de Jérôme K. Jérôme. Alors Fabrice, est-ce que tu peux nous présenter ce livre ?
Bien sûr. Alors Jérôme K. Jérôme est un écrivain anglais de la fin du 19e siècle et début 20e siècle. Alors c'est un homme qui a exercé plusieurs métiers, comme employé de chemin de fer, instituteur, bien sûr, il est écrivain. Alors, il a été connu pour cette œuvre, « Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien », qui a été écrit en 1889. Alors, dans ce livre, nous sommes à la fin du 19e siècle. Pour leurs vacances, nous avons trois gentlemen, Georges, Harris et Jérôme, avec le chien Montmorency, qui descendent la Tamise dans une barque. Alors, c'est la première fois que ces messieurs campent et naviguent. Donc, il va leur arriver à un tas d'aventures et de mésaventures. Et ces aventures et mésaventures vont permettre à l'auteur, Jérôme K. Jérôme, d'aborder des éléments historiques sur les villes que vont rencontrer les personnages, d'émettre des réflexions plus ou moins sérieuses sur la vie ou d'évoquer des souvenirs. Et en l'occurrence, là, je vais vous lire un souvenir des personnages, donc comment Oncle Podger accrochait les tableaux.
Donc on vous lit tout de suite un extrait de « Trois hommes dans un bateau, sans oublier le chien » de Jérôme K. Jérôme sur Radio Campus Amiens.
L'encadreur venait de livrer un tableau, et l'objet était là, attendant qu'on le suspende quelque part. Ma tante Podger s'inquiétait. Par où devait-on commencer ? Et Oncle Podger répondait « Oh, laisse-moi faire, je vais m'en occuper, je me charge de tout. » Il retirait alors sa redingote, il envoyait la bonne achetée pour 10 sous de clous, pressait l'un des garçons de courir après elle pour lui préciser la dimension adéquate. « Et maintenant, Will, va me chercher mon marteau » criait-il. « Et toi, Tom, apporte-moi la règle. Ah, il me faudra l'escabeau, et puis une chaise de cuisine. Jim, cours chez M. Goggles et demande-lui de me prêter son niveau d'eau. Maria, j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir la lampe. Quand la bonne reviendra, il faudra qu'elle ressorte chercher un bout de cordelière à tableau. Tom ! Où est Tom ? Tom ! Viens ici et prépare-toi à me tendre le tableau. » Il soulevait le chef-d'œuvre pour le laisser échapper aussitôt. Le tableau sortait de son cadre. Oncle Podger essayait de rattraper le verre et se coupait la main. Alors il sautillait dans toute la pièce à la recherche de son mouchoir qu'il ne trouvait pas, parce qu'il l'avait fourré dans la poche de son veston, lequel venait de disparaître. Il l'avait retiré à l'instant. Où donc avait-il bien pu le poser ? Tout était momentanément suspendu. Les outils pouvaient attendre. Chacun était tenu de se mettre à la recherche de ce fichu veston. « N'y a-t-il donc personne dans cette maison qui sache où est mon veston ? Jamais vu une pareille équipe de ma vie. Vous êtes 6 !» et pas un qui soit capable de retrouver un veston que j'ai enlevé il n'y a pas 5 minutes. Bon sang de bonsoir !» Il se levait du fauteuil et constatait qu'il était assis dessus. « Oh, ne cherchez plus » s'écriait-il. « Je l'ai retrouvé tout seul !» Et après qu'on eût passé une demi-heure à soigner sa coupure, qu'on eût acheté un autre verre, qu'on eût apporté des outils, l'escabeau, la chaise et la lampe, la deuxième tentative commençait. Deux personnes tenaient la chaise, une troisième l'aidait à monter dessus, une quatrième lui tendait un clou et la cinquième venait à peine de passer le marteau que le clou lui avait glissé des doigts. « Et voilà !» disait-il d'un ton dépité. « Le clou est tombé !» Et de nous mettre tous à quatre pattes à la recherche du clou, cependant qu'il restait lui planté sur sa chaise à ronchonner et à nous demander si on comptait y passer toute la soirée. Le clou enfin retrouvé, c'était au tour du marteau de disparaître. « Où est le marteau maintenant ? Où ai-je mis ce fichu marteau ? Mais vous êtes là, 7, à me regarder les yeux ronds, et personne ne sait ce que j'ai fait du marteau !» On lui retrouvait son marteau, mais il ne distinguait plus la marque qu'il avait faite sur le mur, là où il devait enfoncer le clou. Il s'emparait alors de la règle, mesurait de nouveau, pour finir par constater qu'il lui fallait prendre la moitié de 75 cm et 3 huitièmes. Il se risquait à un calcul mental et devenait enragé. Chacun se creusait les méninges pour l'aider et chacun obtenait un résultat différent. Et on oubliait la mesure prise. Et il ne restait plus à l'oncle Podger qu'à reprendre la règle. Il utilisait alors un bout de ficelle et, au moment critique, où il se penchait sur son perchoir, selon un angle de 45 degrés, tentant d'atteindre un point que les lois de l'équilibre lui interdisaient, la ficelle lui faussait compagnie. Il tombait à son tour et atterrissait sur le piano avec un très bel effet musical dû à l'ensemble parfait avec lequel sa tête et son corps venaient frapper les touches. Et ma tante Maria déclarait qu'elle ne permettait pas aux enfants de rester là plus longtemps si c'était pour entendre pareil langage. Mon oncle Podger parvenait à situer de nouveau la place du clou, prenait ce dernier dans la main gauche, le marteau dans la droite et s'écrasait le pouce du premier coup, lâchant l'outil sur les orteils de quelqu'un d'autre dont les hurlements s'élevaient en se mêlant aux siens. Et il s'emparait à nouveau du clou et du marteau. Cette fois, il ne ratait pas son coup. Le clou passait à travers le plâtre et la moitié du marteau avec lui. Il nous fallait alors retrouver la règle et la ficelle, et la troisième tentative s'achevait par un deuxième clou dans la cloison. Enfin, vers minuit, le tableau était accroché, de guingois et précairement. Le mur alentour sur plusieurs mètres carrés semblait avoir essuyé un tir de mitrailleuse. Et tous nous titubions de fatigue et de découragement. Tous, sauf oncle Podger. « Et voilà !» s'écriait-il, joyeux, en descendant lourdement de la chaise sur les orteils de la femme de chambre. Il contemplait avec une fierté évidente son œuvre dévastatrice et ajoutait « Quand je pense qu'il y a des gens qui auraient fait venir un ouvrier pour une bricole de ce genre !»
Toujours facile d'accrocher un cadre. Le livre « Trois hommes dans un bateau sans oublier le chien » de Jérôme K. Jérôme vous fera peut-être remonter quelques souvenirs. En parlant de clous et de marteaux avec Émile, on a pensé à Claude Ponty, auteur jeunesse qui a beaucoup marqué notre enfance par des dessins originaux et ses histoires farfelues, bourrées d'imagination et surtout très émouvantes. On va donc vous lire un extrait de « L'île déserte » de Claude Ponty.
Jules est un zert. Il vit sur l'île déserte. C'est une île au milieu de l'océan, avec de l'eau tout autour et du ciel par-dessus. La plupart du temps, les zerts zertillonnent. Ils courent, grimpent, s'empilent, s'effondrent, sautent et recommencent. Le reste du temps, ils font autre chose.
Le matin, Jules prend son petit déjeuner avec Duke le clou. Ensuite, il prend une douche en l'air. Puis quand il est bien propre, il s'en va cueillir des fleurs. Pour les offrir à la brique, Jules est fou amoureux de la brique. Donc il faut beaucoup de fleurs, beaucoup.
Comment Jules et Duke sont devenus amis ? Un jour, Jules a trouvé un clou sur sa route, enfoncé dans l'herbe jusqu'aux narines. C'était Duke. Il était planté là depuis 27 mois et 3 jours. Il avait été attaqué par le martabaf. Jules tira de toutes ses forces et décloua Duke. Depuis ce jour, Jules et Duke sont amis.
Jules déteste le martabaf. Le martabaf n'a qu'une seule idée dans sa tête, enfoncer les clous. Dès qu'il en voit un, il tape. Le pire, c'est quand il pique sa crise. Là, il tape tout ce qui bouge. Il ne s'arrête que quand il a cloué tout le monde.
Un jour, le martabaf a raté Duke. Jules a pris le coup sur la tête. Jules en a été tout slumpy slumpy. Complètement slumpy slumpy. Tellement slumpy slumpy qu'il est tombé raide évanoui. Quand il s'est réveillé, il a vu la brique. Il l'a trouvée si belle, si droite, si carrée, qu'il en a aussitôt été fou amoureux fou.
On On vous lisait donc un extrait de L'île déserte de Claude Ponty sur Radio Campus Amiens avec Émile. Un livre dont on suit attentivement les histoires pleines d'humour, de finesse et de jeux de mots, mais dont on observe aussi les dessins pleins de détails qui nous emmènent dans un autre univers, comme ce fameux Jules dont on vous parlait, qui est en fait un cube et un corps humain, ou encore ce Martabaf au regard moyennement sympathique. Alors pour finir, toujours avec le sourire, et cette fois-ci on va faire du bricolage un peu comme le Martabaf en fait finalement, c'est-à-dire pour démonter, casser, démolir. Ça s'appelle « Le gang de la clé à molette » et c'est écrit par Édouard Abeille. Et donc Christelle, c'est toi qui nous l'as suggéré.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que là, il est question effectivement de destruction, mais pour une cause juste, enfin qui semble juste en tout cas pour ceux qui l'amènent, c'est-à-dire la cause écologique. On va se retrouver, ce gang est composé de 4 personnes qui se rencontrent un peu par hasard. L'un d'eux est médecin, il s'appelle Doc. Bonnie est sa secrétaire, c'est une femme qui a du caractère, qui est beaucoup plus jeune que lui. Ensuite, il y a Smith, qui lui est un mormon polygame, mais bon, ses femmes ne le savent pas vraiment. Il est guide de randonnée sur le Colorado. Et Ed Hugh, qui est un vétéran du Vietnam, qui vient prêter main forte à Smith et qui l'aide à organiser ses randonnées sur le Colorado. Et il est originaire de la région, effectivement. Donc ces deux-là, les deux derniers, Smith et Ed Hugh, s'insurgent contre la bétonisation de leur région. Désormais, il y a 3 ponts qui chevauchent la rivière, qui permet aux touristes de venir. Il y a aussi un barrage qui a été construit pour permettre d'avoir un lac de barrage pour les touristes. Et donc, ils envisagent tout simplement d'essayer de faire sauter ces ponts et de détruire également le barrage pour redonner à la nature tous ses droits. Bien sûr, avant de pouvoir mener un tel projet qui est quand même assez pharaonique, ils vont s'entraîner et commencer simplement par une petite destruction d'engins de chantier.
Bah ça nous donne envie de lire un extrait, tout ça en fait. Donc c'est parti, on va vous lire un extrait du Gang de la clé à molette, écrit par Édouard Abeille.
Doc s'installa confortablement sur le siège de cabine d'un énorme rouleau compresseur. Joua avec les manettes.
C'est raide,
dit-il,
mais ça reste un véhicule.
Pourquoi on commencerait pas par cette salope, juste là ?
Dit Ed Hugh en parlant de l'engin où Doc avait pris place.
Histoire de se faire la main.
C'était vrai, pourquoi pas ? Les sacs s'ouvrirent, les outils et les torches apparurent. Sous l'œil élevé de Doc, ses 3 comparses s'amusèrent à trancher du fil électrique, cisailler de la durite, couper du câblage de commande et sectionner du tuyau hydraulique sur le splendide Easter C450A flambant neuf.
27 tonnes, double tambour, dont un à pied de mouton. Diesel Caterpillar 330 HP. Prix conseillé, $29,500. FOB Saginaw, Michigan. Un des meilleurs, un petit bijou.
Ils travaillèrent gaiement. Les casques de chantier claquaient et cliquetaient contre l'acier. Les fils et câbles cédaient en lâchant les riches.
Doing.
Et les...
Kong.
Massifs du métal qu'on sectionne sous tension. Doc s'alluma un nouveau cigare. Smith essuya une goutte d'huile projetée sur sa paupière. La fragrance acérée du fluide hydraulique embaumait l'air, se mêlait avec un bonheur moindre aux arômes du cigare de Doc. L'huile, en fuite, formait des nappes dans la poussière. Il y eut un autre bruit, au loin, comme un bruit de moteur. Ils s'arrêtèrent. Doc scruta la nuit. Le bruit s'effilocha.
RAS, les gars,
dit-il.
On continue.
Lorsque tout ce qu'il pouvait couper fut coupé, Ed Hugh sortit la jauge du bloc moteur. Pour vérifier le niveau d'huile ? Pas tout à fait. Et versa une poignée de sable fin dans le carter. Trop lent. Il dévissa le bouchon du réservoir à huile, prit un marteau et un burin, perça un trou dans le filtre et y versa davantage de sable. Smith ôta le bouchon du réservoir d'essence et y vida 4 bouteilles d'un litre de sirop carreau. Injecté dans le moteur, ce sucre allait former une épaisse couche de carbone sur les parois des cylindres et les segments de piston. Le moteur se figerait comme un bloc de fonte dès qu'il le ferait démarrer. Enfin, s'ils arrivaient à le démarrer. Quoi d'autre ? Abzug, Smith et Ed Hugh prirent quelques pas de recul et scrutèrent la basse paisible de l'engin. Ils étaient tous 3 impressionnés par leur œuvre. Le meurtre d'une machine. Un déicide. Ed Hugh compris, éprouvaient une forme de terreur sacrée face à l'énormité de leur crime, face au sacrilège que cela représentait.
Allez, maintenant, on lacère le siège,
dit Bonnie.
C'est du vandalisme,
dit Doc.
Je suis contre le vandalisme. Lacérer des sièges, c'est petit bourgeois.
Ça va, c'est bon. D'accord,
dit Bonnie.
On passe au suivant. On vous lisait donc un extrait du rocambolesque Gang de la clé à molette d'Edouard Abbé sur Radio Campus Amiens, histoire qui a l'air plutôt rafraîchissante pour prendre l'air durant votre confinement. Maintenant, notre émission Littérature et bricolage touche à sa fin. Alors je tiens à remercier nos lecteurs, Émile, Armand, ainsi que Christelle et Fabrice, qui sont en plateau avec nous. Merci.
Merci Juliette.
Merci Juliette.
Je vous rappelle que même en ces temps difficiles, vous pouvez commander ces 4 livres chez des libraires indépendants sur le site leslibraires.fr, tout attaché. Bonne lecture et surtout, bon bricolage.